Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Maisha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Okapi. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'impact de l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé aux mains sensibles dans la lutte contre le Covid-19 en RDC. Marcel Ngomombala est à la présentation de ce magazine mis en ondes par Dieudonné Nyangasa sous la supervision de Jean-Marc Batwaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. La RDC fait face à la maladie à coronavirus ou Covid-19 depuis le mois de mars dernier où le premier cas a été enregistré à Kinshasa, et depuis, le gouvernement congolais et d'autres partenaires tant nationaux qu'internationaux sont à pied d'œuvre pour contrer cette épidémie en collaboration avec l'équipe de la riposte de Covid-19 en RDC. Et parmi les partenaires impliqués dans cette lutte, on y retrouve l'Organisation Mondiale de la Santé aux mains sensibles. Alors pour parler de l'appui de cette agence du système des Nations Unies, nous sommes rendus à son siège ici à Kinshasa. Nous avons échangé avec le docteur Gervais Folefac. Il est coordinateur du programme des urgences sanitaires de l'OMS pour la RDC. Nous avons eu aussi à rencontrer un des membres de l'équipe de la riposte de Covid-19 en RDC, le docteur Michel Mouvoudi, pour nous faire une idée de ce que représente cet appui pour la RDC, un pays qui compte à ce jour 17 provinces touchées sur les 26 que compte la RDC. Il est vrai que 5 mois après l'apparition de Covid-19 en RDC, les résultats sont encourageants, notamment pour la ville province de Kinshasa, qui est en fait l'épicentre de l'épidémie en RDC et où l'on enregistre un taux élevé de guérison et baisse de cas de Covid-19. Alors, quel est le rôle joué par l'OMS depuis l'apparition de Covid-19 en RDC? Suivons ce que nous dit le docteur Gervais Folefac, que nous rappelons qu'il est coordinateur du programme des urgences sanitaires de l'OMS pour la RDC.
Vous savez que la RDC a connu son premier cas de Covid-19 le 10 mars 2020. Donc actuellement, nous sommes pratiquement à 5 mois de réponse à cette épidémie. Où est-ce qu'on en est pour le moment? La RDC a déjà notifié autour de 10 000 cas, 9 757 cas depuis le début de l'épidémie. Nous avons eu malheureusement 248 personnes qui ont perdu la vie à cause de cette épidémie. Sur les 26 provinces que compte la RDC, 17 sont déjà affectées. Donc, vous voyez que l'épidémie s'est très vite propagée dans les autres provinces du pays. Nous saluons le travail accompli jusqu'ici par les équipes de riposte au niveau des différents piliers de la riposte. Il faut dire que l'OMS a accompagné ces équipes de riposte-là dans les principaux piliers. Et le résultat, aujourd'hui, c'est qu'on a quand même 8 920 personnes qui sont guéries du Covid-19. Les piliers pour lesquels l'OMS intervient en priorité, c'est beaucoup plus au niveau de la surveillance. Donc nous aidons la commission de surveillance dans l'identification des alertes, l'investigation, dans les listages et le suivi des contacts. Nous aidons également le pilier prévention et contrôle des infections, que ce soit dans l'évaluation des formations sanitaires, dans la mise en place des structures de triage au niveau des formations sanitaires, que ce soit aussi au niveau de la décontamination des formations sanitaires. Mais je dois dire que nous avons beaucoup plus appuyé au niveau de la formation. Nous avons formé beaucoup. Mais ce que nous constatons depuis un certain temps quand même, c'est que l'épidémie est en train de régresser surtout au niveau de la ville de Kinshasa. Parce que là, il faut qu'on fasse cette précision. Nous avons constaté autour du mois de juin, on était autour de 1000 cas par semaine. En juillet et août, on se retrouve maintenant autour de 200 à 300 cas par semaine. Donc ça veut dire qu'au niveau de Kinshasa, l'épidémie régresse. Au niveau aussi des malades qui sont dans les structures de prise en charge, on constate aussi qu'il y a une diminution du nombre de malades dans les structures de prise en charge. Donc ça montre qu'il y a de moins en moins de cas. Ça, c'est au niveau de Kinshasa. On constate aussi qu'au niveau des tests de laboratoire, il y a de moins en moins de cas positifs. C'est-à-dire que le nombre de tests n'a pas beaucoup diminué. mais on constate qu'on a, on avait environ 20% de positifs en juin, autour, aujourd'hui, en août, on se retrouve autour de 10% de cas positifs. Donc, ça veut dire quand même que l'épidémie régresse au niveau de Kinshasa. Mais il faut rester vigilant parce que l'épidémie continue à se propager dans les autres provinces du pays. Donc, on peut pas dire que parce que Kinshasa s'améliore, qu'on doit rester dormir sur nos lauriers. Il faut maintenant mettre l'accent sur les autres provinces, telles que le Nord Kivu, où par exemple, on a eu une augmentation de nouveaux cas ces dernières semaines. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à l'évolution de l'épidémie au niveau de la RDC.
L'OMS intervient donc, vous l'avez suivi, sur plusieurs piliers, dont la surveillance des cas, la formation du personnel sanitaire, la prévention et contrôle, la fourniture en matériel médical, mais aussi la logistique. Mais quelle est exactement la nature de cet appui de l'OMS en RDC?
Concernant les actions d'envergure menées par l'OMS, je dois dire que l'OMS, en principe, ne répond pas seul à cette épidémie. L'OMS appuie toujours le gouvernement. L'OMS appuie les acteurs nationaux. L'OMS travaille aussi en collaboration avec les autres partenaires. Bon, maintenant, concernant l'OMS, je dois dire que depuis le début de l'épidémie, nous avons déployé 52 experts de l'OMS sur le terrain. La grande partie à Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces en épidémie, telles que le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Congo central. Surtout, c'est dans ces provinces-là. Donc, c'est des experts dans les différents domaines où l'OMS a un avantage comparatif. Je pense, par exemple, à la surveillance. Je pense, par exemple, à la prévention et contrôle des infections. Le laboratoire, la prise en charge. Donc ça, c'est le domaine dans lequel on a déployé les gens. Au niveau de la communication aussi, nous avons mis à la disposition de l'équipe de riposte du secrétariat technique. Oui, on espère. Et c'est cet expert mis à la disposition du secrétaire technique pour la communication qui coordonne la commission communication. Donc ça, c'est un appui qui nous a été sollicité et puis on a pu le faire. Ça, c'est un ancien staff de l'OMS qui est retraité mais qui a beaucoup d'expérience. Au niveau de la surveillance, nous avons formé 800 prestataires. Nous sommes en train de faire la digitalisation. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de mettre en place un système de détection précoce des alertes à partir des téléphones portables. À partir des tablettes. Donc ça, c'est pour faciliter la détection des alertes et leur investigation sur le terrain. Et puis, on appuie, comme je vous ai dit, on a appuyé le ministère, les acteurs nationaux dans le listage, le suivi des contacts. Ça, c'était important pour pouvoir couper la chaîne de transmission de l'épidémie. Au niveau du laboratoire, on a approvisionné le secrétariat technique en réactif, surtout l'INRB en réactif. Nous avons également approvisionné le laboratoire vétérinaire. Vous savez, c'est une réponse multisectorielle. Donc, il était question que le secteur santé animale vienne en appui au secteur santé humaine pour cette pandémie. Donc nous avons encouragé cela, nous avons aidé le laboratoire vétérinaire réactif. L'OMS, depuis le début, on a approvisionné en matériel et réactif pour environ 780 000 dollars. Donc ça, c'est important. Nous savons que le laboratoire, c'est un des piliers importants pour la riposte. Donc pour les autres secteurs, comme j'ai parlé de la prévention et contrôle de l'infection, nous appuyons les structures de santé parce que vous savez, l'une des spécificités de cette riposte, c'est qu'il faut protéger les personnels de santé pour qu'ils ne s'infectent pas, pour aussi permettre que d'autres malades qui viennent dans les fonctions sanitaires pour d'autres pathologies ne soient pas infectés. Donc, nous sommes en train d'appuyer aussi les fonctions sanitaires en termes de formation, en termes d'approvisionnement en matériel de prévention et contrôle des infections. Nous sommes également en train de les appuyer en termes de matériel de décontamination pour les fonctions sanitaires. Donc, au niveau de la logistique, on a fait beaucoup d'efforts. Nous avons mis à la disposition des équipes sur le terrain des motos. Je crois qu'on a mis environ plus de 130 motos, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Congo central, que ce soit au Nord Kivu, dans la Tchopo et à Chikapa. On a mis suffisamment de motos pour permettre aux équipes d'avoir la mobilité suffisante pour faire les investigations des cas suspects dans la communauté. Nous avons aussi mis à la disposition des équipes en plus, parce qu'on a mis à la disposition des... On a l'OMS a acquéri, avec des fonds que nous avons reçus des bailleurs, nous avons acquéri des véhicules, parmi lesquels, je crois que c'est 9 véhicules, parmi lesquels deux ambulances, ouais, qui sont également en train d'être mis à la disposition des équipes, sans compter et les ordinateurs, les tablettes, environ 200 tablettes pour le système d'alerte précoce, des ordinateurs pour les zones de santé. Plus de 1130 mégaphones ont été acquis par l'OMS. Donc voilà un peu... Mais tout cela a été fait grâce à nos partenaires que je tiens à remercier. Je pense particulièrement à la Banque mondiale. Je pense à Gavi. Je pense à ECHO. Je pense à Bill et Melinda Gates Foundation. Je pense au Fonds humanitaire, à la coordination humanitaire et la Chine. Et puis King Baudouin Foundation, c'est une fondation américaine. Donc je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire tout cela pour la RDC.
au regard des résultats très encourageants enregistrés dans la ville province de Kinshasa, il faut le rappeler, il y a un taux très élevé de cas de guérison, une baisse de cas recensés positifs. Comment l'OMS compte-t-elle poursuivre son action dans la durée lorsqu'on sait qu'en RDC, l'état d'urgence sanitaire a été levé depuis le 28 juillet dernier et que le virus continue encore à circuler à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays également touchées par les Covid-19?
Au vu de la dynamique de cette pandémie, on constate qu'elle va durer dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on s'organise pour continuer à faire une riposte tout en renforçant le système de santé. Parce que c'est pas une épidémie qu'on va riposter pendant quelques mois et puis arrêter. Non, il faut maintenant voir comment est-ce qu'on peut le faire dans la durée. Alors, je vais revenir un peu au cas de la RDC. En principe, il faut continuer à mobiliser les ressources. Alors, au niveau de la RDC, il y a eu des mesures qui avaient été prises pour vous rappeler de l'état d'urgence qui vient d'être levé, je crois que c'était le 21 juillet par le président de la République. Alors, avec toutes les conséquences, il y a l'école qui reprend, il y a les entreprises qui sont en train d'ouvrir, il y a les églises. Alors, donc ce que nous, on compte faire, c'est appuyer déjà pour éviter une résurgence des cas là où il y avait déjà une amélioration, par exemple dans la ville de Kinshasa. Donc, pour cela, il faut déjà voir comment est-ce qu'on peut appuyer les écoles, peut-être en limitant le nombre d'élèves par classe, en approvisionnement les élèves, les enseignants en masque, les fidèles dans les églises, comment est-ce qu'on peut les approvisionner en masque, en encourageant la distanciation au niveau des églises, au niveau des écoles, au niveau des lieux publics et des transports. Donc il faudra également encourager l'utilisation des gels hydroalcooliques et des dispositifs de lavage des mains au niveau des écoles, au niveau de tous ces lieux-là. Et puis, si possible, c'est le contrôle des températures au niveau. Donc ça, c'est des mesures qui sont liées à la levée de l'état d'urgence pour lesquelles il faut vraiment mettre en œuvre. Alors, deuxièmement, peut-être une des spécificités de cette épidémie, c'est que ceux qui font le plus, qui ont le plus de chances de faire des formes sévères, ou bien ceux qui ont le plus de chances de malchance de mourir de cette épidémie, c'est beaucoup plus les personnes âgées, c'est beaucoup plus les personnes qui ont d'autres pathologies chroniques, telles que l'hypertension et le diabète. Donc, nous sommes en train de travailler avec la coordination nationale de la riposte et avec le programme national de lutte contre la maladie cardiovasculaire et le programme national de lutte contre le diabète pour voir comment est-ce que ceux-là peuvent être sensibilisés, peuvent être dépistés en priorité et peuvent être pris en charge pour leur maladie chronique. Parce que si vous avez le diabète et que votre diabète est équilibré, si vous avez le diabète, il faut faire le maximum d'efforts pour ne pas attraper le Covid. Parce que si vous attrapez le Covid, vous avez plus de malchance de faire des formes sévères que celui qui n'a pas le diabète. Donc nous sommes en train de travailler avec ce programme-là pour mettre en œuvre ces actions. En plus de ça, là où il n'y a pas, il y a une baisse de cas, il faut maintenant, chaque fois qu'il y a un cluster, c'est-à-dire un ensemble de cas, il faut investiguer rapidement et couper la chaîne de transmission. Ça, c'est l'une des stratégies que nous sommes en train de mettre en place aussi avec la coordination de la riposte. Mais toutes ces actions dont je viens de dire, c'est en plus des actions qui étaient déjà en place. On va continuer ce qui était déjà fait, c'est-à-dire en termes de surveillance, en termes de prévention et contrôle des infections. Mais vous constatez aussi, vous convenez aussi avec moi que pour qu'on arrête l'épidémie, il faut que les populations adhèrent aux mesures barrières. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce que je viens de dire, si les populations n'adoptent pas de comportement à moins de risques, ce sera difficile d'arrêter la propagation de l'épidémie en RDC. Donc ça, c'est très important. On va continuer le dépistage des cas au niveau des laboratoires, c'est-à-dire il faut que les gens connaissent leur statut, s'ils sont infectés, s'ils ne sont pas infectés. Tant qu'on aura suffisamment de réactifs pour le COVID, on va continuer à faire le dépistage massif. On va isoler les cas positifs, les prendre en charge pour que ceux qui sont malades, qui ne meurent pas de cette maladie. Donc ça, c'est des actions qui étaient déjà faites qu'on va continuer.
Cet appui de l'OMS est bien apprécié à sa juste valeur par l'équipe de la riposte, car les interventions de cet agent du système des Nations Unies ont eu un impact positif dans la lutte contre le Covid-19 en RDC. Comme le souligne le docteur Michel Mouvoudi, nous rappelons qu'il est spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de la riposte de Covid-19 en RDC.
Je pense que ici, il faut d'abord souligner, moi je pense, le rôle majeur qu'a joué l'OMS et continue à jouer dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la Covid-19. Cet apport, moi je le situe à trois niveaux, dont le niveau stratégique, le niveau technique et même le niveau opérationnel. Alors s'agissant du niveau stratégique, Je pense que pour ce qui est de la RDC, et vous savez que c'est le rôle de l'OMS de conseiller les pays, l'OMS quand même en RDC a fait des efforts substantiels pour essayer de garder le dialogue politique entre les acteurs. Vous savez très bien que au niveau mondial, depuis 1948, lorsqu'on a mis justement en place l'OMS, les États avaient comme objectif de pouvoir travailler ensemble pour remonter le niveau de santé des populations. Et l'agenda de l'OMS, c'était celui-là. Et pour arriver à mettre en place ces agendas, le dialogue politique, le dialogue stratégique était obligatoire. Et je l'ai vu durant cette pandémie à la COVID-19 et même ailleurs. Je pense que on a eu quand même des espaces de dialogue avec l'OMS pour, un, expliquer ce que le pays est en train de faire. Ok, donc comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau local qui ont été mises en place par les nationaux, notamment la fabrication de certains matériels, l'engouement à retrouver des solutions thérapeutiques. Et je pense que l'OMS est resté pour garder un peu ce dialogue entre les partenaires, mais aussi tous les investisseurs et les autres collègues, acteurs qui travaillent dans la riposte. Pour moi, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Mais non, sous le plan technique, vous l'avez remarqué, que ce soit d'ailleurs l'épidémie, la maladie à virus Ebola qui venait de se terminer à l'Est, mais que ce soit la pandémie, la COVID-19, l'OMS a quand même déployé un nombre substantiel d'acteurs au niveau des zones de santé, au niveau des aires de santé, pour appuyer techniquement le ministère de la Santé dans la mise en œuvre du plan stratégique pays qui avait été élaboré. Donc je pense que ça c'est très important parce que au-delà de la volonté des pays à pouvoir mener la lutte, il y a aussi parfois cette insuffisance technique. Et je crois que l'OMS l'a comblé, même si tout n'a pas été fait comme on l'a souhaité, mais je crois que l'OMS a quand même joué un rôle important. Et sur le plan opérationnel, évidemment, vous pouvez constater que l'OMS a été quand même très présente dans tout ce qui est définition des guides. L'OMS a participé pour appuyer le pays dans tout ce qui est, par exemple, suivi, n'est-ce pas, de la dynamique de la pandémie. L'OMS a beaucoup soutenu, surtout le niveau opérationnel. Quand je parle du niveau opérationnel, c'est le niveau des zones de santé, parce que nous, en RDC, quand on a élaboré notre plan, on a voulu que l'ancrage soit au niveau de la zone de santé. Et je crois qu'à ce stade, l'OMS a pu faire quelque chose, quand bien même il y a encore beaucoup d'aspects sur lesquels il faut encore continuer à travailler.
Merci de suivre Radio Capi et bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. Vous êtes en train de suivre en ce moment Maïcha Bora, votre magazine des santé et bien-être sur Radio Capi. Nous parlons aujourd'hui de l'impact de l'appui de l'Organisation mondiale de la santé au médecin cycle dans la lutte contre les COVID-19 en RDC avec le docteur Gervais Follefac. Il est coordinateur du programme des urgences sanitaires de l'OMS pour la RDC. Pour cet expert de l'OMS, depuis l'apparition du COVID-19 en RDC au mois de mars dernier, les interventions de l'OMS se situent entre autres au niveau de la fourniture en matériel médical, la formation du personnel de santé, la logistique, la surveillance des cas, la prévention, le contrôle et la prise en charge. Toutes ces interventions ont contribué positivement dans la lutte contre le COVID-19 en RDC, comme l'a reconnu l'un des membres de l'équipe de COVID-19, le docteur Michel Mouvoudi, que nous avons eu à suivre il y a quelques instants. Toutefois, pour le docteur Gervais Follefac, cet appui ne s'effectue pas sans difficulté. Il y a d'une part des fonds qu'il faut continuer à mobiliser auprès des bailleurs. Ensuite, la RDC est un pays immense. Il faut être en mesure de répondre aux besoins des autres provinces touchées et même de celles non encore touchées. Mais aussi des efforts pour les dépistages qu'il faut étendre à travers tous les pays. Autre difficulté rencontrée, c'est le manque d'adhésion totale de la population aux mesures barrières, mais aussi le problème de motivation des prestataires.
Oui, en termes de difficultés, je dois dire que la première difficulté, c'est déjà la mobilisation des ressources, parce que c'est une épidémie qui est en train de mettre du temps, donc il y a une certaine fatigue déjà, même au niveau des bailleurs, parce qu'il faut bien qu'ils... enfin, c'est dans tous les pays du monde qu'il y a le Covid. Donc, et puis, vous connaissez aussi la situation de la RDC. En plus du Covid, la RDC fait face à beaucoup d'autres épidémies, donc ou bien d'autres urgences sanitaires. Donc, il faut que qu'on puisse trouver mobiliser de l'argent pour continuer à répondre à cette épidémie en RDC. La deuxième chose, c'est l'appui au niveau des provinces touchées. Vous savez, depuis le début, on a beaucoup plus concentré les efforts au niveau de Kinshasa, qui était l'épicentre de l'épidémie. Parce que Kinshasa, je crois, a notifié près de 85% des cas de la RDC. Donc, ce qui était normal. Bon, maintenant que l'épidémie se propage dans les autres provinces, ça veut dire qu'il faut maintenant essayer de voler au secours des autres provinces. Et même des provinces qui ne sont pas encore affectées, il faut faire des actions de préparation au niveau de ces provinces. Donc, pour ça, il faut des ressources et on n'a pas encore suffisamment de ressources pour mettre en œuvre ces activités dans les autres provinces. Il y a un problème aussi, vous avez parlé de l'immensité du pays. Le pays est très vaste. Alors maintenant, au début, il fallait que tout le monde envoie des réactifs, des échantillons, pardon, ici à Kinshasa, à l'INRB, pour qu'on fasse le test. Alors, vous convenez avec moi qu'un échantillon qui part peut-être du bas où elle est, pour arriver à Kinshasa, ça met tellement de temps, dans le temps qu'on sache que la personne est malade. Donc il y avait un retard considérable dans le rendu des résultats. Alors aujourd'hui, on s'est forcé à décentraliser le dépistage, le diagnostic du Covid-19 au niveau des différentes provinces, mais on est confronté à un problème de réactifs. Il y a un problème de pénurie des réactifs. Au niveau global, c'est pas un problème spécifique de la RDC. Et ça s'explique parce que c'est une pandémie et tous les pays ont besoin de ces réactifs-là. Donc, ça qui fait que on a décentralisé, mais on est un peu limité parce qu'il n'y a pas suffisamment de réactifs au niveau global pour pouvoir faire fonctionner les centres de diagnostic dans toutes les provinces de la RDC. Alors, les autres pays, ça ne se ressent pas trop. Mais nous, comme le pays est trop vaste, ça fait un gros retard dans le rendu des résultats. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'adhésion des populations. Ça, c'est l'une des faiblesses de cette réponse ici. Les populations n'ont pas beaucoup adhéré aux mesures barrières. Ça, il faut le reconnaître. Donc, je crois qu'on est en train de continuer à mettre l'accent là-dessus pour que les gens puissent adhérer à ces mesures-là qui, sans elles, ce sera difficile d'arrêter vraiment la propagation de l'épidémie. Et il y a un autre problème qui a gêné un peu la riposte en RDC, c'est le problème de la motivation des prestataires. Vous vous rappelez qu'il y a eu un mouvement d'humeur des prestataires au mois de juin, qui a un peu freiné les activités des ripostes à certains endroits. Bon, heureusement, je crois qu'il y a une solution qui a été trouvée. Nous, l'OMS continue à faire le plaidoyer pour que les primes des prestataires soient payées régulièrement pour qu'on n'assiste plus à ce genre de situation. Donc voilà un peu quelques difficultés qu'on a rencontrées pour l'appui de l'OMS à la riposte au niveau de la RDC.
L'OMS demeure avant tout un partenaire technique, c'est ce que pense le docteur Michel Mouvoudi, ce membre de l'équipe de la riposte de Covid-19 en RDC. Il estime néanmoins que son rôle dans la mobilisation des ressources est indispensable, car les besoins en RDC sont énormes pour mener à bien la lutte contre le Covid-19 ensemble avec le gouvernement congolais et tous les autres partenaires impliqués dans cette lutte.
Alors, premièrement, d'abord, comme je l'ai mentionné, le leadership de la riposte est situé au niveau du ministère de la Santé. Donc, c'est pas l'OMS qui conduit la riposte en RDC. L'OMS, comme d'autres partenaires, comme la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNFPA, et ainsi de suite, vient en appui technique au pays pour l'aider à mettre en place sa vision. Donc ça, c'est important. Et donc, pour moi, que ça soit dans le cadre de la lutte, que ça soit dans le cadre de la préparation, que ça soit dans le cadre de la prise en charge, ainsi de suite. Donc, si vous regardez tous les piliers de la riposte, l'OMS, d'abord, c'est un partenaire technique. Okay? Qui dit technique, ça veut dire l'OMS vient apporter des idées, discuter avec le ministère sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et je pense que c'est là qu'on attend, justement, l'apport de l'OMS durant toute cette pandémie. Et je salue, justement, cet effort collectif qu'on a eu ensemble avec elle sur, notamment,
maintenant, comment améliorer la guérison, comment par exemple diminuer le taux de mortalité, mais aussi aujourd'hui, si vous visitez les hôpitaux de Kinshasa, vous n'avez plus de cas graves comme avant. Donc je pense que ça c'est un très bon travail. Maintenant, là où il faudra aussi éventuellement souligner un élément important, c'est les défis logistiques et les défis financiers. Je sais que l'OMS est aussi parfois un partenaire financier, parce que apportant de ressources pour pouvoir surveiller la maladie, prendre en charge ou bien engager la communauté dans la participation. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on devra encore un peu plus travailler. Ça veut dire que je vois aussi l'OMS aider à la facilitation pour mobiliser des ressources et les affecter sur les plans nationaux qui sont élaborés par le ministère de la Santé en collaboration justement avec tous les partenaires. Vous rappelez-vous quand on a commencé la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en RDC, c'était au mois de mars, on avait élaboré un plan qui s'est chiffré déjà au départ à 135 millions de dollars. Ok, c'était grand. Et là, 135 millions de dollars, on ne parlait que de 4 provinces touchées. Aujourd'hui, on en a plus de 15. Vous comprenez que les besoins sont énormes. Nous devons reconnaître. L'OMS est en train de faire sa part, mais l'OMS ne peut pas tout faire. C'est comme ça justement que chaque fois qu'on élabore des plans au niveau sectoriel, ces plans restent multibailleurs. Ça veut dire on a la part de chacun. Tous les partenaires, y compris l'État, doivent venir soutenir ce qui est en train de se faire. Et je pense que les gens ont raison d'attendre un peu plus de l'OMS. Mais pas seulement de l'OMS, parce que nous sommes là pour nous compléter. Que ce soit sur le volet technique, que ce soit sur le volet financier, je crois qu'il y a un collectif qui doit jouer autour du leadership du ministère de la Santé pour arriver à mettre fin à cette pandémie.
Avant de boucler ces sujets, nous avons eu à poser tout de même une question de curiosité au coordinateur du programme des urgences sanitaires de l'OMS pour la RDC, le docteur Gervais Follet. C'est ça de savoir comment cette agence du système des Nations Unies fait son travail en RDC au moment où l'ONU commémore cette année 2020 le 75e anniversaire depuis sa création en 1945.
Disons que le travail que fait l'OMS en RDC, je crois que c'est un travail vraiment louable parce que c'est dans un contexte vraiment très, très particulier par rapport aux autres pays. La RDC, c'est l'un des pays vraiment qui a tellement de situations d'urgence sur le plan sanitaire. Et le pays aussi, il est très vaste, vous voyez. C'est très vaste pour aller d'un bout à un autre, c'est très difficile. Donc, nous avons des sous-bureaux sur le terrain. Ça, c'est un acquis parce que ce serait difficile pour nous de couvrir tout le pays si on n'avait pas de sous-bureaux. Pour le moment, nous avons 11 sous-bureaux sur le terrain et nous travaillons en collaboration avec ce sous-bureau-là pour pouvoir gérer les situations d'urgence dans les différentes provinces. Donc, c'est grâce à cet appui-là, cet appui décentralisé que nous essayons de couvrir un peu tous les pays. Sinon, je crois que vous vous rappelez, nous avons, la RDC est l'un des pays qui a reçu la visite du directeur général de l'OMS. Je crois que ça fait peut-être 3 ou 4 reprises que le directeur général est venu ici en l'espace de 2 ans. La directrice régionale, elle est venue plus de fois que cela en l'espace de 2 ans. Alors, vous comprenez bien la place de la RDC pour l'OMS, parce que c'est un pays qui a des situations d'urgence et c'est un pays pour lequel l'OMS apporte vraiment un appui assez considérable.
Voilà, fin de ce numéro du Maïcha Bora consacré à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé Hommes sensibles dans la lutte contre le Covid-19 en RDC. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était la mise en nom de ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matraki. Au micro, c'était Marcel Gomombala. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro du Maïcha Bora. D'ici là, prenez soin de vous et surtout continuez à observer les gestes barrières contre le Covid-19. À très bientôt.